On peut peut-être commencer effectivement par cette année 2015. Donc vous annoncez des résultats records dans un contexte où il y a eu quand même beaucoup d'inquiétudes. Qu'est-ce que vous dites justement sur cette année d'LVMH particulière, parce que ça a été jusqu'au quatrième trimestre un challenge?
Je crois que l'année a été marquée par un contexte économique contrasté, des monnaies plutôt favorables puisque l'euro était assez bas, un environnement géopolitique très perturbé, et vous avez des monnaies étrangères qui ont des variations entre elles pas toujours favorables, les matières premières très basses, ce qui fait qu'un certain nombre de pays, par exemple la Russie au niveau économique ou le Brésil pour d'autres raisons, ont traversé certaines difficultés, et les événements géopolitiques, le terrorisme en France qui jette de l'inquiétude sur l'ensemble du pays et des touristes qui se rendent en France. Alors devant tout ça, malgré tout ça, je dirais, les résultats du groupe sont bons, ils sont même très bons, puisqu'on a fait une année record à la fois en chiffre d'affaires, en résultats et en cash flow. Parce que nos différentes marques sont toujours extrêmement désirées et qu'elles offrent des produits nouveaux. Elles ont eu un très fort développement, par exemple Louis Vuitton, qui, entre parenthèses, organise en ce moment une exposition au Grand Palais, donc tous vos auditeurs, je les invite à aller la visiter, parce qu'elle est extraordinaire, sur toute l'histoire de Louis Vuitton. Louis Vuitton qui a ouvert un certain nombre de magasins, ou rénové un certain nombre de magasins, qui a lancé des nouveaux produits avec son créateur emblématique, Nicolas Ghesquière, et qui réussit à attirer de plus en plus de clients qui veulent la meilleure qualité, puisque Vuitton offre, comme vous le savez, la meilleure qualité en matière de maroquinerie, de produits en cuir, en matière de valises, et maintenant fait de très belles choses en prêt-à-porter, en souliers, dans tous les accessoires. Même chose dans les autres secteurs d'activité, grand succès avec les parfums. Le parfum homme qui a été lancé par Dior, qui s'appelle Sauvage, est devenu immédiatement numéro 1 dans la plupart des pays du monde. C'était, je crois, le plus grand lancement, la plus grande réussite de lancement d'un parfum masculin, de toute l'histoire des parfums masculins. Les parfums féminins de Dior se sont aussi, J'adore, Miss Dior, se sont bien développés. Donc un grand succès des parfums cosmétiques. La partie montre et joaillerie également, avec grand succès de Bulgarie, ces lignes de produits, la ligne Diva, la ligne Serpentier, emblématique depuis toujours, et les nouvelles montres qui s'appellent Lucea, très très bien fonctionné. Et en matière de distribution, un grand succès de Sephora, qui se développe dans le monde entier, qui va bientôt devenir numéro 1 de la distribution en matière de beauté, de parfums et cosmétiques aux États-Unis, alors qu'il est déjà numéro 1 sur le net aux États-Unis. Il a ouvert l'an dernier en Australie avec une grande réussite. Et également, ici à Paris, un grand succès du bon marché. Je vous invite tous à aller visiter l'exposition. Là aussi, il y a l'artiste chinois Ai Weiwei qui expose.
Il y a une vraie différence entre vous et les investisseurs en ce moment en bourse, c'est que les investisseurs ont peur de la Chine, de ce ralentissement de la croissance chinoise. Vous avez dit tout à l'heure que finalement, il fallait relativiser. Alors, comment vous pouvez être plus optimiste finalement que les investisseurs aujourd'hui sur ce marché chinois?
Bon, je pense qu'un certain nombre d'observateurs sous-estiment les fondamentaux de l'économie chinoise. L'économie chinoise va croître en 2015 entre 5 et 6%, va croître en 2016, d'après tous les pronostics, également entre 5 et 6%. On ne peut pas dire que ce soit un pays en difficulté économique. La consommation des ménages augmente. Alors certes, il y a peut-être un peu moins de développement des exportations des sociétés qui fabriquent des produits industriels en Chine, mais c'est compensé par le développement des services et c'est bien géré par le gouvernement chinois qui a une efficacité sur l'économie plus grande, pour toute une série de raisons, que dans un certain nombre de pays occidentaux. La seule chose qui a été un peu problématique l'an dernier, c'est la gestion des phénomènes boursiers, la bulle boursière, avec ensuite la baisse boursière. Pour tout ça, c'est vrai que là, ça n'a peut-être pas été géré de manière optimale. Mais moi, je suis plutôt confiant, à moyen terme, sur l'évolution de la Chine. Et d'ailleurs, pour le groupe, les chiffres d'affaires en Chine sont à peu près stables l'an dernier, et le volume d'affaires, le chiffre d'affaires réalisé avec des clients chinois est en augmentation. Alors j'ai dit pour les 20 prochaines années qu'il y aurait 80% de bonnes années, mais 20% d'années plus difficiles. Hein. Donc 16 bonnes années, ça c'est un pronostic personnel, hein, je n'engage que moi, et 4 années plus difficiles. Donc, sur les années difficiles, on aurait 2 très difficiles et 2 difficiles. Et qu'il était impossible de prévoir quand les 2 mauvaises ou les 4 mauvaises allaient tomber. Donc voilà, et donc ça veut dire que nous sommes à moyen terme optimistes, mais qu'il est probable que dans la période en question, il y ait encore une grande crise. Hein. Alors, d'où va-t-elle venir ? Bon, j'ai lu un livre intéressant sur la folie des banques centrales. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met un argent incroyable dans l'économie, avec des résultats, en tout cas dans les pays européens, sur la croissance limitée, et avec des conséquences qui sont très anesthésiantes sur les États, qui ont tendance, du fait que les taux d'intérêt sont très faibles, à ne pas trop s'inquiéter de l'augmentation affolante de la dette. Mais le jour où les taux d'intérêt vont remonter, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on risque d'être en train de créer des bulles qui se déplacent d'un marché à l'autre, d'une bourse à l'autre, et qui peuvent un jour éclater, on ne sait pas trop comment. Voilà. Et donc ça, à mon avis, dans les 20 ans qui viennent, je ne prends pas tellement de risques. Hein. Ça risque d'arriver.
Alors, vous parlez de dette, justement. On peut dire qu'à la fin de l'année 2014, LVMH n'est pas un groupe endetté, ce qui est plutôt une bonne chose. Du coup, vous avez quand même aussi expliqué nombreuses marques que vous avez aujourd'hui en portefeuille. Est-ce que vous pouvez être aujourd'hui et réaliser des acquisitions ? Vous avez toujours des projets en tête ?
On peut toujours réaliser des acquisitions, mais enfin, les acquisitions, pour faire de bonnes acquisitions, il ne faut pas y penser. Hein. Il ne faut pas être véritablement déterminé. Il faut saisir les opportunités si elles se présentent, quand elles se présentent, et dans l'intervalle, gérer les marques du groupe, et je l'ai dit tout à l'heure aussi, privilégier les start-up très orientées vers l'esprit entrepreneurial, gérer, créer des start-up internes, les développer et les faire croître. Bah, a priori, il y a un certain nombre de magasins qui peuvent ouvrir le dimanche. Alors, je sais que malgré la loi Macron, qui est un progrès certain, plusieurs magasins ne peuvent toujours pas ouvrir. Je pense que c'est bien. Et je pense que progressivement, les touristes reviennent. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe. Il y a eu une baisse très forte après les attentats. Et depuis, un certain nombre d'indicateurs plutôt favorables. Espérons qu'il n'y ait pas de nouvelles catastrophes. S'il y avait moyen, évidemment, Sephora ou... Louis Vuitton sur les Champs-Élysées sont déjà ouverts le dimanche. Merci.